bonne semaine à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce jour, depuis samedi 12 juin à Goma, au Nord Kivu, dans un point de presse tenu hier dimanche, Félix Tshisekedi a dit qu'il s'agit d'une visite de réconfort pour dire à la population de Goma que l'État ne l'oublie pas après la récente éruption volcanique. Et en ce qui concerne l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le président de la République, Félix Tshisekedi, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, se félicitait des résultats à mi-parcours. La capacité des nuisances des forces négatives a été sensiblement réduite et nous sommes déterminés à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, a dit le président de la République. Le chef de l'État se propose de donner des orientations supplémentaires à l'issue de l'évaluation qui sera faite avec les deux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri. Quelle analyse faire de l'évaluation faite par le président de la République sur l'état des sièges? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 14 juin 2021. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Chabani, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir, merci pour l'invitation.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamoukia. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Sobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani. Il est spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux, comme d'habitude, vous auditeurs des Radio Capia, nous envoyez vos réactions. C'est le cas de Jean des Dieux Lusenge. Disons quand même merci au président pour sa visite au Nord Kivu, mais le président ne devrait pas dire qu'il y a des avancées quant à la situation sécuritaire sur terrain. Cette avancée doit être constatée par la population sur terrain. Nous ne savons pas s'il faut dire que cet état de siège est effectif ou non. Josué Kakule, je salue la présence du chef de l'État à Goma et j'encourage sa décision de faire le tour des provinces sous état de siège. Ceci est non seulement un réconfort aux populations de ces deux provinces qui font face au massacre et aux effets de l'éruption volcanique, mais bien plus en sa qualité de commandant suprême. Sa présence sur terrain lui permet de palper du doigt la réalité qui lui permettra de donner des orientations adaptées à la situation réelle du terrain. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En ce jour à Goma, depuis samedi, le chef de l'État a tenu hier dimanche une conférence de presse devant les médias internationaux et nationaux. Le chef de l'État a dit venir s'enquérir de la situation après la récente éruption volcanique, des dégâts causés et consoler la population sinistrée. Félix Tshisekedi a félicité le gouvernement provincial et les humanitaires de la manière dont ils ont géré cette crise. Toujours lors de cette conférence de presse, le chef de l'État est revenu également sur l'évaluation de l'état des sièges décrété au Nord Kivu et en Ituri il y a plus d'un mois déjà. Le président de la République se dit satisfait jusqu'ici de ce qui est déjà fait par les autorités provinciales militaires. Denise Lukesu nous en dit plus.
Quant à l'évolution de l'état des sièges au Nord Kivu, le président de la République s'est dit satisfait jusqu'ici de ce qui est déjà fait par les autorités provinciales militaires. Pour lui, l'état des sièges ne devait pas tout régler immédiatement à partir du moment où il a été décidé. Il affirme que le gouvernement congolais est engagé résolument à neutraliser ces bandits. Cependant, il reconnaît quelques poches de violence face auxquelles il dit qu'il va redoubler sa détermination pour en finir avec l'existence de c'est hors la loi.
L'état de siège est décidé parce qu'à un moment donné, il fallait donner la parole à la force et c'est cette force qui sera appliquée jusque dans les derniers retranchements de ces barbares. Ces barbares savent qu'aujourd'hui, nous sommes engagés résolument à les faire disparaître. Ils vont essayer d'exister en faisant davantage de violence, mais c'est à leur corps perdu qu'ils le font parce que nous n'allons pas nous décourager. Ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fera surtout pas reculer. Et surtout pas changer de décision.
Le président Tshisekedi Tshilombo reconnaît tout de même quelques imperfections dans le rang de l'armée nationale et il promet d'y travailler et améliorer. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Merci Denise Lukeso pour tous ces détails. Maître Jacoma Chabani, je rappelle que vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Vous êtes dans la délégation du chef de l'État qui séjourne à Goma depuis samedi. Quel sens donner à la présence du chef de l'État dans cette province en proie à l'insécurité dans laquelle l'état de siège a été décrété depuis le 6 mai dernier?
Oui, je crois qu'on se rappelle tous aussi qu'au mois de septembre, le chef de l'État avait fait savoir aux populations du Kivu et de la partie orientale de la République qu'il devait venir se rapprocher d'eux et vivre avec eux. Je crois qu'on peut mettre cela aussi dans ce cadre-là, mais des catastrophes nous ont bousculés dans les différents agendas et le président de la République a estimé qu'il devait rapidement venir compatir avec ce nouveau malheur, parce que c'est des populations qui accumulent de souffrance en souffrance, ce nouveau malheur avec l'éruption volcanique. Le chef de l'État et son épouse, la première dame, Maman Denise, ont estimé qu'il devait venir passer quelques jours pour constater les dégâts, consoler les populations, réaliser le travail à faire pour rétablir la quiétude de toutes ces populations. Et c'est une visite de compassion, de solidarité et de partage des souffrances.
En ce qui concerne l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le président de la République, Félix Tshisekedi, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, s'est félicité des résultats à mi-parcours. Il a dit au cours d'un point de presse tenu hier dimanche, et selon lui, la capacité des nuisances des forces négatives a été sensiblement réduite et les FARDC sont déterminés à poursuivre tous ces rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. Peut-on parler vraiment de capacité des nuisances sensiblement réduites alors que les incursions des groupes armés se poursuivent et la population continue d'être massacrée dans les deux provinces?
Oui, je crois qu'à ce stade, nous sommes qu'à un mois de l'état d'urgence, au premier mois, mais à ce stade, on peut enregistrer d'énormes signaux de satisfaction. D'abord, il faut arriver à réaliser que le président de la République a répondu à la demande, à une demande de différentes composantes de la société civile de la partie orientale de la République qui sollicitait cet état d'urgence. Et après examen, le président de la République a estimé que, étant donné que la Constitution le lui permettait, il fallait opter pour cette solution parce que c'en était de trop. Et les résultats sont là. Par exemple, dans la ville de Goma, nous avons enregistré depuis l'état d'urgence la cessation des assassinats qu'on enregistrait au quotidien, par exemple des cambistes et de certains hommes d'affaires, ça n'existe plus. En termes des localités et des villages qui étaient occupés par les forces négatives, un bon nombre d'entre elles sont en train d'être récupérées et sont récupérées par les forces armées congolaises. Maintenant, ce que nous enregistrons aussi comme acte de violence et certains assassinats, comme nous l'avons enregistré au courant de la semaine passée, il faut le mettre dans les réactions de panique de ces groupes armés qui, en fuyant les localités qu'elles occupaient, se réfugient dans d'autres et dans la panique commettent ces actes d'assassinat. Il faut aussi arriver à comprendre que l'objectif de l'état d'urgence et les résultats escomptés, nous ne les aurons pas dans 2-3 semaines. Mais ici, le plus important, c'est que l'acte responsable a été posé par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'urgence. Les provinces concernées le réalisent, comme je viens de le dire tout à l'heure, d'une certaine manière. Et nous sommes convaincus que les résultats vont être vécus dans le quotidien de tout un chacun.
Maître Jacques Chabani, vous appuyez les propos du chef de l'État quant à l'évolution positive hein, de l'état de siège. Mais selon nos sources sur place, à Beni surtout, puisque c'est là où les EDF commettent beaucoup d'exactions. On parle de la dégradation de la situation sécuritaire. 74 civils ont été tués au mois de mai contre 47 au mois d'avril.
Oui, il faut savoir que la situation n'est pas la même dans toutes les parties ou dans tous les territoires de ces deux provinces. Beni a la particularité, par exemple, que ces forces négatives sont mélangées dans les populations. Donc, par moment, il est difficile de les identifier, de les détecter. Mais le processus ici déclenché par l'état d'urgence, en resserrant les taux sur leurs différentes organisations, en appelant au désarmement, en travaillant aussi avec les différentes organisations de la société civile, le président a dit que d'ici la fin de la semaine, il va désigner les responsables des DDRC, ce qui va mettre un plus dans la dynamique du désarmement, du désengagement de toutes ces forces négatives. La société civile mise en commun dans cette dynamique-là, vous verrez que on arrivera à dénicher, à désintégrer de plus en plus tous ces groupes négatifs qui, par exemple, dans la ville de Beni, se trouvent dans les cités, vivent avec les populations, et c'est ce qui permet qu'elles arrivent à poser des actes de cruauté en pleine cité, comme cela s'est passé il y a 4 semaines avec l'imam qui a été assassiné en plein culte.
Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'SID, parti membre de la coalition Lamoukia. Jean-Baptiste Kasekwa, cette présence du chef de l'État dans la province du Nord Kivu, comment vous l'analysez?
Le sens que je donne découle des propos et du bilan de l'évaluation qu'il fait de l'état de siège. Et je me mets dans la peau de ces populations de Tchabi, de Boga. Je me mets dans la peau de ces populations de Katoï qui, depuis 2 semaines, vivent à nouveau les affres du phénomène de la criminalité urbaine connue sous le nom de 40 voleurs, au siège même des gouverneurs militaires. Je me mets dans la peau de ces populations du secteur de Wenzori, de Vutotolia, qui ont enregistré 32 morts en une seule nuit. Et que ces populations apprennent de la bouche de M. Félix que l'état de siège produit ses résultats, que la capacité des groupes armés a été réduite sensiblement, eh bien, ces populations-là sont dans le deuil. Et donc, je condamne ces discours de déni de la réalité. Je ne sais pas si ce qui l'entoure, mon frère Maître Jacquemin, il est du terrain, il connaît que, par exemple, à Luachi, à Massissi, les groupes armés ont délogé nos FRDC de leur position. Jacquemin doit être au courant, par exemple, que le centre commercial de Fataki, à Nitori, depuis le samedi, a été occupé par les miliciens Koteko. Personnellement, je me rends compte que, à l'annonce de l'état de siège, les milices, les groupes armés ont semblé observer une trêve. Ils ont cédé à l'effet d'annonce, mais au fur et à mesure que les jours passent, ils se rendent compte que c'est une coquille vide, aucune opération n'est lancée. Je reviens à la situation des Ituri. Il est vrai que la toute première semaine, les FARC ont lancé une offensive contre les groupes armés Codeco et ont repris la position de Codeco sur la RN27. Mais depuis lors, les FARC n'ont plus rien poursuivi et les miliciens se sont réorganisés. La preuve, c'est qu'ils sont revenus et ont pris la position du centre commercial de Fataki. Mais de l'autre côté, parce que l'on parle d'évaluation, je crois que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. J'avais déjà adressé une lettre en date du 10 juin 2021, 4 jours après la proclamation de l'état, l'entrée en vigueur de l'état de siège. J'ai demandé au président de l'Assemblée nationale de faire venir le premier ministre et tous les ministres concernés.
données pour que nous puissions faire une évaluation préalable des opérations militaires antérieures, savoir quelles en étaient les causes des échecs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement dans la même situation. Lorsque vous analysez de près les attaques de Tchad et de Boga, on va vous dire qu'il y avait un problème de sous-effectif des FARDC. L'attaque de Fataki, c'est la même chose. Donc on n'a pas, l'état de siège n'a apporté aucune solution.
Donc, Jean-Baptiste Kasekwa, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces. Pourtant, on a suivi le porte-parole des FARDC qui a dressé un bilan quand même positif par rapport à cet état de siège. Plusieurs localités ont été récupérées par les FARDC, plusieurs rebelles ont été repoussés et même anéantis. Est-ce que ce n'est pas félicité?
C'est ce discours-là qui nous a toujours été chanté depuis longtemps. C'est une propagande à laquelle nous assistons ici à Kinshasa. On organise des concerts, Bendele Kouyaté. Les gens se font fabriquer des t-shirts sous les insignes des FARDC et pour eux, c'est ça le succès. Non, tenez, le bilan du mois de mai, par exemple, donne 223 personnes tuées contre 198 en avril. À territoire de Mambasa, j'ai lu le rapport de Kivu Security, de le baromètre. À territoire de Mambasa, 35 personnes tuées au mois de mai contre 3 personnes tuées. À territoire de Beni, nos collègues élus nationaux de ce coin ont fait un total de 153 personnes tuées, rien qu'au mois de mai. Comment peut-on parler d'amélioration de la situation? Voilà pourquoi je suis en train de condamner, de dénoncer cette politique de déni par laquelle nous nous interdisons d'observer la situation à face. Je disais tantôt que rien n'a été changé. Le problème d'effectif n'a pas trouvé de solution. Madame, est-ce que vous savez que tout le mois de mai, après le lancement de l'état de siège, les troupes au front à Beni ont souffert du manque de rations militaires de la même manière qu'ils ont souffert avant. C'est-à-dire que l'état de siège a été lancé sans préparation, avec trop de légèreté, et voilà pourquoi on veut abuser, n'est-ce pas, de la confiance, de la patience des citoyens, et dire que l'état de siège durera le plus longtemps possible, alors que, d'après notre constitution, c'est un régime exceptionnel de restrictions dramatiques des libertés, qui ne doit durer qu'un temps bien limité. Le seul avancée notable, madame, c'est que l'état de siège a réussi à effrayer les populations victimes des massacres à ne plus manifester.
La présence du chef de l'État au Nord Kivu, Jean-Baptiste Kasekwa, c'est là, va permettre au chef de l'État de palper du doigt la réalité sur terrain, ce qui lui permettra de donner des orientations adaptées à la situation réelle du terrain. Est-ce qu'il ne faudrait pas saluer cette présence?
J'aurais bien salué sa présence s'il pouvait descendre jusqu'à Tchabi et à Boga, s'il pouvait bien descendre jusqu'à Vutotolia. Mais s'il se limite dans des chambres climatisées de l'hôtel Serena, et puis il va à Beni, se limite à l'hôtel, eh bien, il ne va récolter que des informations erronées. Mais par contre, s'il descend pour rencontrer effectivement ces victimes qui souffrent à Boga, qui souffrent à Tchabi, qui souffrent à Mayangos, parce que Il est dit qu'il est le commandant. Mais s'il prend la température réelle jusqu'à ce stade-là, il va comprendre que le temps des sièges jusqu'à ce jour, la population se pose la question de savoir à quoi consiste l'état des sièges, parce qu'il est plus théorique dans les discours, mais dans les faits, on ne voit aucun changement.
Professeur Chaubert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani et spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Votre analyse, professeur Chaubert Aguenonga, voilà, sur la déclaration ou les propos du chef de l'État concernant l'état des sièges.
Bien, le moins qu'on en puisse dire, c'est que la situation sécuritaire sur le terrain ne cesse de se dégrader. demander à quel point que l'on ne peut pas affirmer que la capacité de nuisance des forces négatives a été sensiblement réduite. Alors, on pourrait accepter que la capacité de nuisance de ces forces soit réduite si et seulement si il y avait des indicateurs objectivement vérifiables et en termes notamment du nombre de groupes armés neutralisés par rapport aux statistiques antérieures. Et là aussi, je m'aperçois que les groupes armés n'ont pas été neutralisés. Ce sont le même nombre de groupes armés qui existaient avant l'état de siège qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Alors, et la question que l'on doit se poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'en dépit des mesures décrétées par le chef de l'État relatives à l'état de siège, l'insécurité perdure-t-elle sur le terrain? Eh bien, il y a quelques éléments d'analyse qui nous permettent d'appréhender avec lucidité ces dynamiques. Le premier constat que l'on fait, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo semblent se battre contre un ennemi dont elles n'ont pas suffisamment de renseignements. Et le constat que l'on a fait, par exemple, sur le massacre de Boga, de Tchabi, dans le sud de Rumu, eh bien, les militaires loyalistes n'ont pas pu être à mesure d'identifier les vrais assaillants, si bien qu'une semaine après les attaques meurtrières du 31 mai dernier, eh bien, le 8, les mêmes attaques ont eu lieu, au même lieu, voyez-vous, en pleine journée, et le soir, les assaillants sont encore revenus à Tchabi. Donc ça prouve quelque part que les forces de sécurité n'ont pas de renseignements exacts sur les rebelles qui sont appelés à combattre. Il en est de même des dernières attaques survenues respectivement le samedi dernier et le dimanche dernier à Fataki. Pour ceux qui ne le savent pas, Fataki, c'est un centre qui se situe sur la route nationale numéro 27. C'est la principale route qui relie la ville de Bunia à la frontière ougandaise. Eh bien, le centre de Fataki a été attaqué le samedi selon les informations officielles. Les assaillants ont été repoussés, mais le lendemain, les forces loyalistes ont été chassées à tel point que les miliciens ont occupé durant toute la mi-journée le centre de Fataki. Ils ont pillé, ils ont mis à sac systématiquement ce centre avant de se retirer. Et ensuite, on constate clairement qu'il y a un déficit d'effectifs sur le terrain. Alors, le diagnostic ressort clairement de ce qu'on a vécu la dernière fois. Vous savez, quand le déplacé était en train de fuir Tchabi vers chez le Walen Lubindi, eh bien, c'est la milice de la FRPI qui a fait le travail de l'armée, voyez-vous. Alors, à cela, je voudrais ajouter l'inadéquation de l'approche militaire à l'œuvre. Donc, l'on constate que la stratégie employée actuellement par les forces de sécurité sont fondées sur ce que nous appelons les stratégies conventionnelles. En d'autres termes, les forces de sécurité utilisent les moyens conventionnels, mais pour faire face à la guerre asymétrique, dans la mesure où les miliciens se cachent dans la population, ils sont difficilement identifiables, et ce n'est pas avec les hélicoptères de combat qu'on va parvenir à identifier ces miliciens qui se sont disséminés dans leur communauté. Et à cela, je voudrais rapidement ajouter l'approche civilo-militaire. Donc, ça perçoit qu'il y a une faible collaboration entre les civils et les militaires, à tel point que les civils qui étaient censés dénoncer auprès des militaires le mouvement suspect des rebelles, pour que ces derniers puissent être proactifs, l'on s'aperçoit que cette approche manque sur le terrain.
Professeur Aguenonga, vous parlez de la dégradation de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège, alors que le gouvernement nous parle des succès sur les groupes armés, des victoires sur les rebelles. Le chef de l'État se félicite. Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État n'a pas la bonne information? Tout ce qu'on lui transmet comme information, ce n'est pas ça qui se passe sur terrain.
Alors moi, je voudrais moins m'en tenir au discours de politique qu'au fait. Je suis par exemple à Ituri, dans l'état de siège, le territoire de Ndjougou, selon les données que nous avons récoltées, qui sont contenues dans les données RACIP que nous avons publiées, nous avons identifié au moins 7 milices. Et ces milices, il n'y en a aucune qui a été neutralisée. Est-ce qu'on va dire que la situation a évolué sur le terrain? L'ennemi s'est par contre rétracté, sans pour autant rendre les armes. Je suis dans le territoire de Mambasa, nous avons identifié au moins 7 milices. Aucune de ces milices n'a été neutralisée, sans compter le territoire du Rumu. Et dans le Nord Kivu, évidemment, et tous les groupes armés actifs avant l'état de siège, il n'y en a pas un seul qui s'est rendu, voyez-vous. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on a récolté des résultats probants et que les avancées sont positives. Par contre, moi, je m'aperçois que l'approche actuelle est étrangement en déphasage avec les dynamiques de terrain pour des raisons que j'ai invoquées, des approches minimalistes et des approches éminemment militaires qui ne peuvent pas apporter des solutions à des menaces sécuritaires ayant des racines non seulement militaires, des approches, comment dire, des menaces ayant des implications sociopolitiques, régionales, ainsi de suite. Donc ça, c'est la plus grosse bourde. Du coup, il est plus que temps pour qu'on puisse évaluer et les fiascos enregistrés et au plus fort de l'état de siège, en vue de repenser le paradigme, en vue de repenser les stratégies à l'œuvre. Mais je suis viscéralement persuadé qu'aussi longtemps qu'on va évoluer sur la même lancée, on va demeurer dans la même approche, la situation ne cessera de s'enliser, la situation ira de mal en pis.
Maître Jacquemin Chabani, vous allez réagir au point de vue de Jean-Baptiste Kasekwa et du professeur Chaubert Aguenonga, mais avant cela, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
C'est Chebe Amani depuis Goma. Nous disons merci au chef de l'État pour cette visite effectuée. Étant habitant du Nord Kivu, dire que la capacité de nuisance des groupes armés serait réduite en état de siège, c'est aller hors de la réalité sur le terrain. Suivant les rapports de la société civile des deux provinces, les effets de l'état de siège seraient subis par les civils, d'où jusqu'à ce jour plus de 200 personnes ont déjà perdu leur vie. Il n'est pas prudent de régler les problèmes avec ceux-là qui l'ont créé. Les mêmes troupes sur le terrain, les mêmes commandements au front et la même logistique. La province du Nord Kivu et l'Ituri méritent le balayage systématique des troupes militaires pour espérer à une paix durable, car les forces armées sont aussi complices dans cette affaire.
Maître Chabani, votre réaction?
Bon, je viens de suivre d'abord votre auditeur et mes deux co-débatteurs que je salue ici. D'abord, je retiens que l'honorable Kasekwa continue à faire de cette thématique d'intérêt national une tribune de débat politique et d'adversité politique interne. Je crois que ce n'est pas utile et ce n'est pas républicain. Je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Mais ici, il faut retenir une chose. La République démocratique du Congo s'est retrouvée devant une situation qui date de plus de 20 ans, avec des conflits et de la violence dans sa partie orientale. Une décision a été prise et cette décision a été saluée par la grande majorité de toutes les couches de la population, surtout ici dans la partie orientale où je me trouve actuellement. Maintenant, faire un jugement du premier mois de l'état d'urgence en le condamnant comme si il avait été dit ou il aurait été possible ou il était obligé que dans les trois premières semaines de l'état d'urgence, nous ayons tous les résultats escomptés, j'estime que si ce n'est pas des postures politiques, c'est de la mauvaise foi. Moi, je crois que le plus important ici, pour nous tous...
Pas tous les résultats escomptés, mais au moins des améliorations, des avancées
les par améliorations
rapport à la situation sécuritaire.
Mes deux co-débatteurs ne sont revenus que sur les côtés négatifs, sur les points non concluants.
Quel est le côté positif de cet état de siège?
Soit des opérations, soit des affres, soit des actes criminels commis par les forces négatives. Je crois que nous tous, nous savons, par exemple, qu'à Boga, ce qui s'est passé, c'est des troupes négatives en fuite qui ont commis ces crimes. Ils étaient en fuite parce qu'attaqués par les forces nationales. Nous savons tous que nous avons affaire à une guerre asymétrique extrêmement complexe avec différents intervenants et qui a des réalités différentes dans le Massissi, dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, ou en Ituri. Je disais ici que le plus important pour nous tous, c'est que la décision a été prise, et c'est une décision courageuse que le président de la République a prise de mettre l'état d'urgence. Que les forces armées congolaises sont dans l'action et se mettent en mouvement. Aujourd'hui où nous parlons, le président de la République a tenu une grande réunion de sécurité ici à Goma, d'évaluation permettait à ce que ce qui a été décidé et ce qui a été fait les 3 dernières semaines ou les 4 dernières semaines soit évalué, permettait à ce que tous ensemble, Congolais républicains, avec cet esprit républicain, nous puissions pousser, nous puissions accompagner pour que les résultats soient et les objectifs soient atteints. C'est vrai, personne ne peut rêver que ces affres, cette ignominie de plus de 20 ans qui s'est incrustée dans la partie orientale de notre pays puisse être réglée en un mois. Il faut rêver. Maintenant, nos vaillants militaires des forces armées congolaises sont sur terrain dans cet état d'urgence depuis un mois. Une évaluation va être faite. S'il y a des corrections à faire, elles seront faites. Mais je crois que tous ensemble, nous ne pouvons pas ignorer que des localités ont été récupérées. Des avancées ont été faites par les forces armées congolaises. C'est quand même insupportable de ne faire une analyse et un débat que sur le côté négatif de la question ou les pertes subies par la République et par les forces armées congolaises. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec nos co-débatteurs. Il y a des avancées. Donc moi, je crois que c'est ça le plus important.
Merci, Maître Chabani. Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous cette réaction.
Gaston Bilambo, depuis Sangui, province de la Tchopo. De prime abord, je tiens à saluer la volonté manifeste du chef de l'État qui, malgré ses multiples occupations, s'est donné le temps d'aller compatir avec nos compatriotes de Goma qui venaient d'être frappés par l'éruption volcanique de Nyiragongo et qui a voulu faire d'une pierre deux coups en faisant une évaluation à mi-parcours sur l'état de siège. Néanmoins, au lieu et place de ne faire confiance qu'aux rapports qui lui seront donnés par les autorités militaires installées dans ces coins du pays, je souhaiterais à mon avis que le président de la République s'imprègne d'abord des conditions de vie que mènent les militaires qui sont en train de faire ce travail, et ensuite rencontrer les différentes couches de la population en vue d'acquérir des informations fiables sur la qualité du travail réalisé jusqu'ici par nos forces armées. Aussi, la question que je me pose souvent, c'est de savoir, lorsqu'on parvient à déloger ces forces négatives, où vont-elles concrètement? Leur finalité, c'est laquelle? Car tout le monde souhaite qu'une fois appréhender ces rebelles, il faut qu'ils soient tous traduits en justice, en fait qu'ils répondent de leurs actes et qu'ils nous citent des personnes qui sont derrière tout ce qu'ils font. C'est en ce sens que la bonne partie de la population sera convaincue que la paix sera stable. Sinon, l'on ne parlera que d'un calme précaire.
Jean-Baptiste Kasekwa, brève réaction.
Oui, Gaston de la Tchopo a parfaitement raison. Ces forces négatives que l'on dit avoir délogées, on a vu par exemple à Beni, dans le secteur de Mangina, où ces assaillants, ces égorgeurs, sont allés de village à village, tuant, brûlant, tout à leur passage. Et le bilan, je vous ai parlé par exemple au territoire de Mambasa de 34 morts, jusqu'à ce jour, on continue à rencontrer, à ramasser des corps à décomposition. Les FDC ne sont pas en mesure de nous dire, voici un chef ADF qui a été arrêté, qui a été tué. Non. Notre auditeur dit bien, il ne faut pas se contenter des rapports des autorités militaires. Je dis moi-même de Goma, mon co-débatteur Jacquemin a parlé des réunions des conseils de sécurité. Mais la réalité qui s'est faite, c'est que depuis la proclamation de l'état d'urgence, les gouverneurs militaires n'ont jamais pris l'effort de quitter les bureaux de Goma. Au Nord Kivu, par exemple, il est vrai, il a effectué une descente à Masisi parce qu'il y a eu un pont qui s'est écroulé. Il a effectué une descente à Lubangabo et c'est tout sur plus de 40 jours. Mais et son discours est plus concentré sur la maximisation des recettes de l'État, comme si le moment venu, on va poser la question de savoir
qu'est-ce que ces gouverneurs militaires font effectivement des recettes propres des provinces, au lieu de fixer son discours sur les problèmes des tueries à Beni, le problème des kidnappings, à l'heure où je vous parle, il y a le président de la Croix-Rouge, Kenya Mirima, qui est kidnappé, beaucoup d'autres citoyens, les kidnappings reprennent de l'ampleur à Rutshuru, au lieu de se focaliser sur ces questions-là, sa préoccupation est centrée autour de la maximisation terrestre.
Mais qu'est-ce que vous proposez, Jean-Baptiste Cassé, quoi, pour que cet état de piège puisse donner des résultats? Jean-Baptiste Cassé-Coua, qu'est-ce que vous proposez pour que cet état de siège puisse donner des résultats positifs?
Il faut une évaluation sans complaisance, et c'est ce que nous avons demandé à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée a promis il y a une semaine, lorsque le gouvernement est venu demander l'autorisation de prorogation, qu'il y aurait un débat sans complaisance, mais nous sommes surpris de constater qu'on amène aujourd'hui un projet d'autoriser la prorogation par le gouvernement, un projet d'habilitation, sans que ce débat ait fait et ait lieu, parce que si nous nous interdisons de faire le débat d'évaluation à l'Assemblée nationale, eh bien, la population va finir par faire cette évaluation d'elle-même, elle est en train d'enterrer les morts au quotidien, et ce sera dramatique que l'on expose notre population à des comportements qui n'iraient pas dans le sens voulu par les institutions.
Professeur Agenonga, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Sikiri Tchomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Le contraire de cette autosatisfaction du chef de l'État serait étonnant à mon avis. C'est ce qui témoigne que le chef est déconnecté de la vraie réalité sur le terrain. L'objectif de l'état de siège n'était pas de réduire la capacité de nuisance de l'ennemi, non. Mais plutôt de mettre fin au massacre. D'ailleurs, la capacité de nuisance de l'ennemi n'a pas été réduite. L'état de siège a plutôt dispersé l'ennemi dans d'autres villages où il fut sans pitié. Pour moi, la détermination ne se décrète pas. En plus, le chef doit éviter la guerre médiatique qui n'intimide en rien l'ennemi. Tant que l'ennemi restera un mystère, c'est-à-dire tant que l'on ne cherchera pas à détecter l'identité de ceux qui tuent, les ravitaillements, ainsi que les complices, on aura nos yeux pour pleurer.
Professeur Agenonga, cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous vous proposez comme solution pour que cet état de siège puisse arriver à mettre fin à l'insécurité, au massacre des populations dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri?
Bien, et je vous dis que l'état de siège qui repose sur un train de mesure militaire, en lui seul pour apporter des solutions, dans la mesure où je vais cesser de le rappeler, la sécurité est la résultante d'une approche multidimensionnelle. Donc, ce n'est pas par la seule approche militaire qu'on parviendra à une paix durable. Donc, le cas d'essai ne constitue en rien un mantra qui fera les provinces de l'Est de l'état de l'instabilité à celui de la stabilité. Je pense qu'il est plus que jamais opportun aujourd'hui pour qu'on essaye d'évaluer objectivement les mesures qui ont été décrétées par rapport à l'état de siège en vue de rectifier les tirs. Mais du coup, à mon humble avis, je suis viscéralement convaincu que de l'approche le commandement fait partie de problèmes sécuritaires pour l'instant. C'est la raison pour laquelle il faut restructurer le commandement militaire actuel autour d'une chaîne de commandement aux mains des officiers efficaces et de professionnels. Il faudrait améliorer les moyens affectés aux forces qui sont sur le terrain pour les rendre davantage proactives. Il faudrait également que l'approche militaire s'accompagne de l'approche judiciaire. Il faut qu'il y ait une justice dissuasive, une justice qui réprime de la manière la plus sévère possible tous les criminels de grand chemin qui se sont rendus responsables de massacres dans les provinces concernées. Et enfin, le DDR, je voudrais insister là-dessus, parce que la finalité de l'état de siège, c'est aussi d'obtenir la reddition et le désarmement des forces négatives. Et pour y parvenir, le gouvernement doit s'assurer qu'il dispose des stratégies BDR qui vont permettre à ce que les miliciens qui seront en mesure de se rendre puissent être cantonnés, puissent être pris en charge, qu'ils puissent également être effectivement réintégrés selon les cas dans la vie civile, et ceux qui vont devoir répondre devant la justice, ils répondront de leurs actes devant la justice. Et je parlais de la ramification extérieure. Il serait, à mon humble avis, irrationnel de se concentrer, de concentrer les efforts sécuritaires seulement à l'intérieur de l'État, dès lors que nous savons que les conflits armés actuels ont des ramifications extérieures. C'est la raison pour laquelle l'État congolais doit repenser sa politique étrangère, disposer d'une diplomatie régionale dynamique qui soit à mesure de pousser dans l'œuf tous les réseaux qui alimentent les violences dans l'est du pays à partir de l'extérieur. Et enfin, l'amélioration de l'approche civilo-militaire. Aucune force au monde professionnelle, soit-elle, ne peut gagner la vie sans bénéficier de la collaboration efficace des civils. C'est la raison pour laquelle il me paraît plutôt rationnel également.
Merci, professeur. Vous allez en profiter, professeur, pour conclure, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion, professeur Saubert.
Oui, et en une phrase, il faut absolument repenser le paradigme sécuritaire à l'œuvre, car la seule approche militaire qui constitue la philosophie qui sous-tend l'état de siège ne permettra pas à parvenir à une solution durable. Il faut améliorer l'approche actuelle pour permettre à ce que les provinces de l'Est recouvrent la stabilité, la paix durable. Et pour y parvenir, il faut également se concentrer sur des approches sociales, des approches diplomatiques, comme je viens de le dire tantôt, les approches politiques, de manière à ce que les provinces de l'Est puissent recouvrer la stabilité.
Merci, professeur Saubert Aguenonga, Jacques-Main, Maître Jacques-Main Chabani. Vous allez aussi conclure. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui doutent encore, qui ne sont pas très sûres que cet état de siège pourrait régler ce problème d'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri?
Je les appelle à garder espoir, à avoir confiance, à faire confiance au président de la République, chef de l'État, à réaliser qu'une décision extrêmement importante a été prise, que l'état d'urgence est aussi un processus, et que ce n'est pas en 3 semaines que les résultats pouvaient être escomptés. Les forces armées congolaises, nos vaillants militaires, sont au travail, sont sur terrain. Les différents responsables sont en train de prendre fonction au niveau des différents territoires, au niveau des mairies et consorts. Donc je crois que d'ici très peu de temps, nous aurons des résultats. Maintenant, on nous demande encore plus, on cite tous les fronts et on veut que le chef de l'État y soit. Je ne crois que ce n'est pas ça la solution. Le plus important, c'est qu'à travers son leadership, l'état d'urgence se met en place, les forces armées congolaises se déploient, les différents responsables font leur travail. Effectivement, il n'y a pas que la solution militaire qui nous amènera à atteindre nos objectifs. Le DDRC, la semaine prochaine, les responsables seront connus et se mettront au travail. Et je reste convaincu aussi que les dialogues intercommunautaires prendront de l'espace pour permettre à ce que la paix et la quiétude se retrouver dans la partie orientale de notre pays.
Merci, Maître Jacques-Main Chabani. Jean-Baptiste Kasekwa, votre conclusion en 30 secondes.
On constate que avant l'état de siège égale après l'état de siège, eh bien, nous devons avoir le courage de revenir au point zéro si nous réalisons que nous avons commis des erreurs. La solution consiste à trouver des réponses aux défis auxquels les opérations militaires ont été confrontées, résoudre le problème des manques d'effectifs, résoudre le problème des relèvements des troupes qui ont fait longtemps sur le terrain. Il est temps qu'une évaluation objective se fasse à l'Assemblée nationale
Et s'il est établi que l'état de siège n'est pas la solution, plutôt que de restreindre les libertés des citoyens indéfiniment, autant revenir à la case de départ et renforcer les opérations militaires.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Donna Madimba, sous la supervision de Martin Seboujangwe. Présentation et à la coordination, Kéline Kouté. Polidor Basunga était à la mise en onde. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.